Je pense que les reconversions ne sont pas un long fleuve tranquille, c'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas, il y a des rencontres très engageantes, très agréables et qui te donnent beaucoup d'envie d'aller plus loin. Et puis il y a des moments où tu as l'impression de rien comprendre, mais quand on a des petits succès, on est très content. Quand on est reçu à l'école, on est très content. Quand on arrive à graduer, on est très content. Quand on arrive à trouver une alternance, on est très content. Et quand on arrive à signer un premier CDI, et ben on est également très content.
En 2021, près d'une personne en activité sur deux envisage ou réalise une reconversion professionnelle. Des reconversions motivées par une insatisfaction dans son poste, l'attrait d'un nouveau métier ou par une vocation ancienne qui ressurgit. Mais qu'en est-il dans les métiers du design? Comment se reconvertit-on? Quand se produit l'étincelle? Quelles sont les formations privilégiées et les obstacles à franchir? Nous avons rencontré Marion, Mélanie et Étienne qui ont effectué une reconversion vers les métiers du design. Trois parcours singuliers, trois témoignages qui disent les victoires et les doutes d'un cheminement tout sauf linéaire. Dans cet épisode, nous évoquerons l'envie de changement, la recherche d'une formation, son financement, l'état d'esprit qui les a animés et leur retour à l'emploi. Ils nous donneront aussi des conseils issus de leur expérience. Dans le chapitre 1, nos trois invités nous racontent comment est née l'envie de se reconvertir. Le chapitre 2 est centré sur leur choix de formation et son financement. Le chapitre 3 aborde la question de la période de formation en elle-même et de leur état d'esprit. Enfin, le chapitre 4 est centré sur leur retour à l'emploi. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur notre site internet, designmasterclass.fr, et sur les plateformes habituelles, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Vous souhaitez aller plus loin? En vous abonnant à notre newsletter, vous allez recevoir une liste de livres, ressources et des bonus. Rendez-vous sur notre site internet. Chapitre 1, l'envie du changement. Nos trois invités ont des cursus initiaux très différents. Dans leur histoire personnelle, les rencontres, provoquées ou fortuites, ont une grande importance.
Je m'appelle Marion Castel, je suis product designer au sein de l'agence Monsieur Guise et j'ai donc effectué une reconversion du marketing digital vers les métiers du design. J'ai commencé par faire des études de commerce, donc une école de commerce assez internationale, Neoma Business School, avec un double diplôme. Donc j'ai fait des années à Reims et je suis partie en Allemagne pendant 2 ans. Concrètement, j'ai fait pas mal de stages durant mes études. Je crois que j'ai totalisé près au moins 26 mois de stages, donc dans des différentes structures marketing pour principalement pour des grands groupes, notamment dans les cosmétiques. Et donc pour ma première expérience, j'ai commencé à travailler en Suisse pendant 3 ans dans l'agence Young & Rubicam, donc avec des clients vraiment très variés, B2B, B2C. C'était vraiment la première expérience et surtout mon premier contact avec les métiers du design, parce que j'étais donc chef de projet digital, donc en permanence en contact avec des directeurs artistiques, des web designers. Voilà, c'était vraiment ma première expérience du design, le métier que je découvrais.
Marion a été immergée dans l'univers de la communication numérique, mais ce n'est pas le cas pour Mélanie et Étienne.
Je m'appelle Étienne, j'ai 37 ans, j'étais travailleur culturel et je me suis reconverti dans les métiers du design en 2020. Initialement, moi j'ai une formation de musicologie, j'ai un master en gestion et administration de la musique que j'ai obtenu dans les années 2009. Et puis, j'ai eu l'occasion, après, pendant une dizaine d'années, de travailler dans l'ingénierie culturelle, hein, comme on le dit. Ce parcours-là, il a été de deux grands ordres. Pendant 5 ans, j'ai travaillé à Paris pour un ensemble de musique baroque, dans lequel j'ai fait de la production et de l'administration. Très concrètement, il s'agissait d'organiser des tournées pour un orchestre, avec des productions allant de 20 à une centaine de personnes. Et on faisait tourner cet orchestre-là en France et en Europe. Il y avait donc des questions d'ordre logistique à effectuer. Et donc, je me vertuais à fluidifier un peu les questions logistiques et administratives. Donc ça a été pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai eu l'occasion d'aller au Canada. J'ai immigré au Canada dans les années 2013. Et j'ai travaillé pour le musée des Beaux-Arts à Montréal, pour une salle qui s'appelle la Salle Bourgie, dans laquelle j'ai fait tout d'abord de l'administration et de la production, un peu comme je l'avais fait à Paris, mais pour une salle. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler sur des questions de billetterie et de marketing pendant 3 années. Donc des choses assez assez différentes de ce que j'avais pu avoir initialement à Paris. Et je suis rentré en 2018 en France où j'ai travaillé pour l'Orchestre national des Pays de la Loire pendant 1 an et demi sur ces questions de billetterie. Et l'année 2020 a été celle de ma reconversion. La musique, elle a toujours fait partie toujours partie de moi. Moi, j'ai passé beaucoup de temps au conservatoire quand j'étais jeune. Je pratique le violon à côté. Ça a toujours été quelque chose qui était comme une deuxième maison, hein, comme on pouvait le dire. Donc, sans que ce soit un rêve d'enfant, disons que c'était une continuité assez logique après mon bac de rentrer en musicologie. Puis j'ai réussi à trouver ma place là-dedans, non pas comme musicien, non pas comme professeur, mais dans cette manière de gestion et d'administration. Donc, pas forcément un rêve d'enfant, mais en tout cas une certaine satisfaction à pouvoir travailler dans ces milieux-là.
Donc moi c'est Mélanie, je suis Service Design Lead chez Frog aujourd'hui. Et autrefois, j'étais chef de projet plutôt dans le secteur culturel. Ce qui m'a poussée à m'orienter vers le secteur culturel, à la base, c'était, je pense, le côté un peu naïf de la lycéenne, qui avait envie de travailler dans les musées, qui avait envie d'étudier l'égyptologie, qui se voyait bien en mode Indiana Jones. Je suis rentrée dans un parcours assez classique d'étudiante d'histoire de l'art, sans avoir aucune connaissance des implications que ce choix avait à cette date. C'est-à-dire, finalement, d'un point de vue travail, un secteur quand même super bouché, super difficile, parce que contraint par l'obtention de concours de la fonction publique, avec un nombre de candidats pour un nombre de postes qui était ridicule.
Premier virage. Mélanie décide de reprendre ses études et de faire un master patrimoine audiovisuel à l'Institut national de l'audiovisuel. Son stage de fin d'études donne lieu à une rencontre qui va marquer durablement la suite de son parcours.
Pendant ce master, on travaillait à la fois tout ce qui était archivistique, audiovisuel et digital, et à la fois il y avait un volet sur la valorisation en ligne de patrimoine audiovisuel et digital. Et du coup, moi j'ai été très intéressée par la partie valorisation en ligne. Et ça m'a amené à travailler en stage sur, grosso modo, faire un site web pour donner accès à des contenus. L'idée, c'était de valoriser le patrimoine architectural de la Cité internationale universitaire en travaillant avec des artistes qui faisaient des œuvres à la croisée des chemins entre documentaires, applicatifs digital, parce que c'était via une app. J'ai commencé à chercher des freelances qui pourrait nous aider à travailler là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Pauline Thomas.
Pauline Thomas a créé le Laptop en 2012, un centre de formation aux méthodes UX. Elle a également écrit le livre « Le design sprint en pratique ».
Quand Pauline me dit « ce que tu fais, c'est de l'UX », là, je me suis dit « ah, bah ok ». Finalement, je passais mon temps à googliser ce que j'étais en train de faire. Hein. Déjà à l'époque, on débarque dans un métier, même si on arrive avec son background de master, bon, c'est comme tout le monde, quoi. Dès qu'on nous demande un truc, on tape sur Internet. Et là, d'un coup, je me dis, mais c'est génial. Ça veut dire que c'est un ensemble de possibles liés à des métiers qui me semblaient hors d'atteinte. Parce que dans ma tête... Moi, vu le choix des études que j'avais fait, j'étais partie pour être chef de projet, en gros, quoi. Et là, d'un coup, on me dit, ah ben non, ce que tu fais, c'est du design, quoi. Du coup, il y avait un côté excitant, quoi. Et aussi, complètement perplexe face à la somme de métiers qui commençaient à émerger, parce que, forcément, j'ai checké ce qu'était UX design, etc. Et en fait, je voyais que c'était tout nouveau en France. Pas du tout nouveau ailleurs.
C'est aussi une rencontre qui amène Étienne à découvrir les métiers du design et à considérer une reconversion.
Pendant pas mal d'années, en fait, j'ai eu l'occasion de me poser la question de et l'après. Je suis toujours dans un stress de savoir ce qui va se passer par la suite. C'est peut-être un vilain défaut, mais j'avais eu l'occasion déjà, dès le Québec en fait, de faire un bilan de compétences, par exemple, au sein de l'UQAM, l'Université de Québec à Montréal. J'avais déjà eu cette envie de regarder un petit peu comment je pouvais exporter ce que j'avais réussi à développer au fil des années dans cette ingénierie culturelle et de pouvoir l'exporter dans d'autres domaines. Je suis passé par beaucoup de phases. On en rigole encore. Avec mes proches, de l'infirmier psychiatrique à la personne qui travaille dans les pompes funèbres. J'ai eu l'occasion de creuser plusieurs pistes avant de... mais ça, c'était vraiment dans les toutes premières années. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles je me suis tourné vers l'UX design et ça a été un processus qui a été, je dirais, assez longuement réfléchi. Il y a une première date qui est celle de 2017 dans laquelle j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne avec qui je travaillais dans les milieux culturels qui a fait la bascule alors même que j'étais au Canada et on a bu un café en rentrant comme ça pendant des vacances. Et elle m'a expliqué qu'elle avait fait une formation au Gobelin. Il se trouve que c'est la formation que j'ai pu faire quelques années plus tard. Et donc, ça m'avait assez émerveillé déjà sa capacité à pouvoir, en un an, aller vraiment dans un milieu très, très divers. Donc ça a été effectivement une première pierre. Ensuite, pour le choix et mon propre cheminement, finalement, ça a été quasiment comme un double diamant. C'est étonnant, en fait. Mais j'ai ouvert beaucoup les problématiques. C'est-à-dire qu'au début, je me disais... peut-être pas forcément l'UX design, mais peut-être, pourquoi pas PO, pourquoi pas Scrum, pourquoi pas chef de projet, en tout cas dans le digital, puisqu'il y avait du travail et qu'il y avait des possibilités de reconversion plutôt moyennement longues à courtes. Il y avait possibilité de pouvoir changer de métier. Donc, la manière dont j'ai réussi à répondre à ces questions-là, eh bien, c'est notamment par des rencontres métiers. J'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de personnes dès les années 2019, simplement un petit mail sur LinkedIn en disant bonjour, voilà, je me pose des questions sur vos métiers, j'aimerais en savoir plus, est-ce qu'on pourrait boire un café? Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer une vingtaine de personnes pour essayer de comprendre quelles étaient les réalités derrière les métiers de chacun. Et puis très vite, j'ai compris que l'UX design était assez fait pour moi au final. Ça a été assez naturel, en fait, le choix de l'UX design après ça. Je me suis rendu compte que c'est un métier qui me convenait. La nécessité de s'immerger dans des univers métiers différents à chaque projet, de comprendre, de creuser un besoin, de s'immerger d'une problématique, c'est quelque chose qui allait m'amener la stimulation intellectuelle qui me semblait nécessaire à ce moment-là. Donc, c'est finalement en rencontrant des UX et en creusant un peu plus le pourquoi du comment de ce métier-là que j'ai fait le choix de me diriger vers ce métier-là.
Chapitre 2. Le choix d'une formation et son financement. Rester dans son entreprise ou tout quitter pour apprendre un nouveau métier ? Selon France Compétences, l'autorité nationale de financement et de régulation de la formation professionnelle et de l'apprentissage, une reconversion professionnelle sur quatre s'opère chez l'employeur initial. C'est le choix qu'a fait Marion quand elle a voulu se réorienter vers le design graphique.
Concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon congé formation. Ça permet en fait de s'absenter de son entreprise. Alors moi, je me suis absentée pendant 6 mois. Je me demande si ça peut pas être jusqu'à pour une durée maximum, peut-être je crois d'un an. Donc de s'absenter de son poste. Pendant une durée définie et d'avoir le confort de pouvoir retrouver son poste ou un poste équivalent dans sa structure au retour de formation. Bien sûr, j'ai expliqué tout le projet à mon manager, mais je leur ai pas soumis l'idée avant d'être décidée. C'était vraiment quand j'étais décidée, voilà, je leur ai dit, voilà, je souhaite faire cette demande de congé formation.
Elle travaillait alors chez Amadeus, une entreprise de gestion pour la distribution et la vente de services de voyage. En plus de mobiliser son compte personnel de formation, Marion a pu bénéficier de la prise en charge de sa rémunération pendant son temps de formation en faisant appel au fonds GESIF. Aujourd'hui, ce dispositif existe sous le nom de projet de transition professionnelle.
C'est sûr que pendant 6 mois, on s'absente, mais on n'est pas payé. Donc, c'est bien beau de vouloir se reconvertir, mais quand on a un salaire qui tombe tous les mois et que notamment on a un crédit sur le dos, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Le fonds GESIF permet en fait de, si le dossier est accepté, de financer son projet de formation plus de maintenir, de verser un salaire, dans mon cas, c'était égal à 90% de ma rémunération pendant toute la durée de la formation. Donc, c'est quelque chose qui est très méconnu en France. Quand j'en parle autour de moi, enfin, à la base, personne ne connaissait. C'est vraiment une richesse qu'on peut avoir en France. Je ne sais pas si ça existe à l'étranger. En tout cas, c'est vraiment une chance et voilà, c'est important de pouvoir connaître son existence.
Étienne a choisi sa formation après avoir soigneusement étudié tous les paramètres.
Mon plan pour cette reconversion, ça a commencé en septembre 2019 et je me suis dit que c'était un bon momentum puisque l'ouverture des écoles était, les concours pour les écoles étaient généralement en mars pour une rentrée en septembre. Donc en septembre 2019, je me suis dit en septembre 2020, je recommence ma nouvelle vie. Donc la première chose que j'ai faite, c'est de donner ma démission pour juillet 2020, en me mettant au pied du mur, en me disant que c'était une bonne chose. Pour ce qu'il en est du choix de l'école, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect de formation, comment je vais être en mesure de me former et de bien me former. Donc là, forcément, il y a des choix qui s'opèrent à travers ça, on pourra y revenir. Et puis l'autre question, c'est concrètement, d'un point de vue financier, d'un point de vue temporel, à quel type de formation je peux accéder. Moi, j'avais déterminé que je pouvais rester un an au salaire minimum au SMIC, donc que la reconversion à travers un contrat de professionnalisation, j'avais plus de 37 ans, donc 35 ans, donc le contrat de professionnalisation était encore accessible, contrairement au contrat de l'alternance en contrat d'apprentissage. Donc de là, ça permet de faire un tri dans les écoles et dans les formations, puisqu'il y a des formations de 4 mois en UX, maintenant ça se trouve. Donc ça répondait pas tout à fait à mon premier critère qui était d'avoir une légitimité nouvelle dans mon futur métier. Moi j'avais envie de me former, donc une formation d'un an à 2 ans, c'est ce que je souhaitais obtenir, et puis ça corroborait avec ma capacité financière à tenir la rampe si je trouvais un contrat de professionnalisation à côté de ça. À partir de là, ce choix, il s'est opéré du coup entre deux écoles que sont le CV Digital à Nantes, qui avait de très bonne presse, notamment pour ses intervenants, des Carole Lemay, des personnes qui étaient extrêmement actives sur Internet, dont j'avais une totale visibilité puisque j'avais déjà effectué une veille sur toutes les personnes qui travaillaient en UX à Nantes. Et puis l'autre école, c'était les Gobelins, avec une formation d'un an qui était directeur de projet numérique UX, UX designer, UX manager. La meilleure façon d'accéder à ces écoles-là, c'est de se préparer. Donc en fait, entre septembre et mars, j'ai continué à travailler tout simplement pour pouvoir préparer les concours avec une culture digitale, avec une remise à niveau en anglais, avec un certain nombre d'éléments qu'il fallait travailler pour préparer les concours. Puis je les ai passés en mars et puis j'ai eu la chance d'avoir les deux. Et après, le choix s'est opéré notamment sur cette question de renommée des Gobelins, forcément, qui est peut-être un petit peu plus appuyée. Moi, j'avais ce besoin de légitimité venant d'une fac de musicologie, d'avoir quelque chose sur mon CV qui soit assez impactant. Donc, c'est vrai que j'ai choisi les Gobelins. Et puis, l'autre chose, c'est que la formation était en une année par rapport à deux, avec un système d'alternance qui me permettait de le faire. Donc, c'est ça qui a été la base de mes choix pour l'école.
C'est sur les bancs de l'école Estienne que Marion effectue sa reconversion.
Moi, je me suis orientée vers la formation du Greta, qui est organisée en partenariat avec l'école Estienne, donc de design. Le Greta, c'est des groupements d'établissements. C'est des structures, en fait, de l'éducation nationale qui organisent des formations pour adultes. En gros, c'est la formation continue pour adultes, orchestrée par l'éducation nationale avec des écoles ou des structures partenaires, comme l'école Estienne pour la partie design. Donc j'ai choisi cette formation qui s'est déroulée sur une période de 6 mois, donc c'était idéal pour moi et pour ce congé formation. Il y avait donc 4 mois et demi de formation et 6 semaines de stage, que je trouvais assez pratique. J'avais comparé bien sûr avec d'autres formations. On va dire que mon top 2 des formations, c'était donc cette école et l'école des Gobelins, qui bien sûr est très prestigieuse. mais qui est sur des formations plus courtes, en formation continue et beaucoup plus chères. Et ce qu'on m'avait fait comprendre aussi clairement, c'est que c'est des formations qui sont difficilement finançables par le fonds GESTIF, par Transition Pro. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait mon choix sur le Greta, c'est que j'avais plus de chances d'être acceptée, d'avoir la formation financée, plutôt que pour l'école des Gobelins. Donc 4 mois et demi de formation, donc ça va être aussi bien des cours de conception, vraiment avec la partie plutôt, on va dire, démarche, anticipation, prise de brief, construction de projet, et en parallèle des cours beaucoup plus, on va dire, fonctionnels, donc apprendre vraiment les logiciels, que ce soit du Illustrator, du InDesign, du Photoshop, un peu de Flash aussi, voilà, ce type de logiciel. Et voilà, et donc au fur et à mesure, on avait donc des projets qui étaient réalisés en se servant de cette base.
Mélanie, quant à elle, décide de rassembler ses économies et de s'inscrire à un bootcamp, une formation intensive d'une durée de 12 semaines, ultra concrète et en mode projet.
J'ai voulu avoir un tampon, une validation, quelque chose qui me permette de passer full UX. Et j'ai décidé de dépenser 1000 euros, qui était énorme pour moi, hein, pour aller me former en faisant General Assembly. General Assembly, c'est une de ces écoles qui, ils ont un peu repensé la manière d'enseigner tous ces nouveaux métiers, ces nouvelles pratiques liées au digital. Donc en fait, c'est des écoles qui fonctionnent sur des principes de bootcamp, donc c'est-à-dire des formules hyper intensives où vraiment tu fais que ça pendant des périodes données. Et ils avaient des bureaux un peu partout aux États-Unis et un seul en Europe, qui était Londres. Quand j'ai commencé à chercher pour savoir, si je veux mon tampon, quel genre de tampon je veux. Et moi, ça faisait quand même un moment que je travaillais et j'en étais à je sais pas combien d'années d'études, quoi. Donc, faut pas que ça me prenne 1000 ans non plus. Et donc, moi, j'ai choisi de faire une formule accélérée, quoi. General Assembly à San Francisco, c'était une formule sur 3 mois. Et du coup, j'y suis allée avec un visa touriste. Donc ça, c'était super. Et c'était donc une formule hyper intensive où t'es avec ta promo, quoi. T'es avec ta promo en mode start-up. Tu vis, tu dors avec eux. T'as un endroit qui est super, d'ailleurs, pour bosser. T'as des profs qui t'accompagnent. Donc t'as des profs qui sont des profs encadrants tout au long. Et après, t'as ponctuellement des gens qui viennent faire des modules, etc. Et en plus, tu dois, dans le temps imparti, faire un vrai projet pour un vrai client et le livrer. Donc, c'est quand même sacrément intensif. Après, en termes d'expérience étudiante, là où c'était hyper bien, c'est qu'ils ont... Enfin, grosso modo, ils l'ont pensé comme du service design, quoi. Enfin, ils avaient vraiment pensé le service dans sa globalité. Donc, tout est fait pour que tu rentres dedans hyper vite, que tu aies une qualité d'apprentissage géniale, que tu vives le meilleur moment de ta vie avec la possibilité. Ils t'offrent des crédits pour que tu puisses t'inscrire à des classes qui sont en dehors de ton cursus. Et comme ils donnent des cours plus larges, avec du marketing, du dev, etc. C'était passionnant, quoi. J'ai dépensé 10 000 euros pour y aller et c'était payé par moi avec mes petits deniers. J'y ai mis tout ce que j'avais, quoi. Je faisais un break dans ma vie professionnelle. C'est quelque chose, quoi. Dans les meet-up que j'ai fait à San Francisco, j'ai rencontré des gens hyper importants pour moi. Qui m'ont énormément inspirée. Par exemple, j'ai fait un truc qui m'a tellement aidée. J'ai fait une portfolio review. C'est-à-dire que tu viens, petit étudiant, avec le portfolio que General Assembly t'a poussé aux fesses à faire. Et parce que General Assembly, ils t'apprennent pas que le métier, ils t'apprennent à te vendre aussi. Et parce que c'est une partie hyper importante d'une reconversion, d'arriver à vendre son parcours, le raconter, mettre du storytelling. Et ce meet-up, il était génial. Parce que j'avais un ponte énorme devant moi qui était un head of design d'une grosse boîte américaine, enfin d'une grosse start-up américaine, et qui a pris le temps de regarder mon petit portfolio et de m'encourager, en fait. Et en fait, ces encouragements-là, c'était énorme, et de me donner plein de tuyaux sur comment tu gères des clients, comment tu mets tes projets à bien, c'est quoi les trucs auxquels il faut faire gaffe au début, c'est quoi les écueils, quelles sont aussi les dernières méthodes en cours. Enfin, c'était passionnant. Et dans ces meet-up aussi, j'ai rencontré des étudiants comme moi, mais d'autres bootcamps, d'autres masters, et avec qui je suis encore en contact aujourd'hui.
Chapitre 3, la période de formation. Véritable respiration dans leur parcours professionnel, source d'un grand dynamisme, la période de formation est abordée par nos trois invités de façon très différente par rapport à leur formation initiale.
Ça a été tout d'abord une grande bouffée d'air frais, moi, dans mon cheminement professionnel, redépenser de l'énergie à penser son métier, à apprendre. Ça, c'est quelque chose qui a été assez fantastique. Ça a été fantastique aussi sur la question de la rencontre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de cette formation des Gobelins, c'est intelligemment fait. C'est des promos mix entre des personnes qui sont en formation initiale et des personnes qui sont en reconversion, comme je l'ai pu l'être, avec trois grandes typologies de personnes. Des personnes qui sont plus issues du web design, des personnes qui sont plus en chefferie de projet, ce que j'ai valorisé moi comme profil, et puis des personnes qui sont vraiment dans le dev, d'un côté technique un petit peu plus assis. Et donc l'idée, c'est que chacun apprenne des uns des autres, à travers un certain nombre de projets dirigés et puis de cours à côté de ça. Donc ça a été vraiment extrêmement positif pour moi. J'ai passé vraiment une excellente année, même si j'ai un peu fini sur les genoux. D'un point de vue personnel, j'ai deux enfants, dont un en bas âge qui est né en mars 2020, donc ça corroborait avec mes concours des Gobelins. Donc ça a été des années qui ont été quand même assez engageantes. Cette question de « est-ce que c'est une bonne école ?», c'est très drôle parce qu'il y a quelques jours, là, il y a un designer que j'aime beaucoup, qui est assez actif sur LinkedIn aussi, qui s'appelle Sébastien Lost, qui a eu l'occasion de lister 34 signes pour savoir si on est dans une bonne école du UX UI design. Bon, je vais évidemment pas les lister ici, mais j'invite les auditeurs à pouvoir aller voir son poste, parce que ça me semblait être assez pertinent sur ce fameux listing de ce qu'on a eu l'occasion de voir ou non au cours de cette année au Gobelins. En termes de critiques, ou en tout cas de limites identifiées dans ces formations, il est clair qu'il est illusoire de penser qu'on en sort comme un designer de 25 ans d'expérience en un an de formation, ou même de 4 mois ou un an de formation. Je pense que la principale limite qu'on peut donner, c'est effectivement le temps, en fait, passé à l'école. Ça fait de nous des professionnels qui nous permettent d'apprendre par nous-mêmes, et je pense que c'est un fort avantage dans ces métiers-là, puisque les techniques évoluent, les logiciels de prototypage évoluent, et ce qu'on va nous demander, c'est surtout d'être en toute autonomie pour pouvoir monter en compétences. Donc la première critique que je pourrais faire, c'est que c'est pas assez long. La différence entre une formation initiale et une formation effectuée en reconversion, elle est énorme. Évidemment, la maturité est très différente. Et je pense que je suis plus mature maintenant qu'il y a une quinzaine d'années, a priori. Et donc, ça amène un plaisir dans l'apprentissage que j'avais pas forcément eu l'occasion de vivre dans mes premières années. C'est-à-dire que on est là pour une raison qui est très très claire, qui est de faire une formation d'un an pour avoir un nouveau métier, une formation d'un an pour être légitime dans ce nouveau métier-là. Donc ça crée forcément une motivation qui est nouvelle, et un véritable plaisir dans l'apprentissage de découverte. D'autant plus que comme a priori je m'étais pas trompé dans ce que je voulais faire, c'est d'autant plus vrai maintenant avec le recul, j'étais assez passionné par les cours, en fait, que j'avais pendant cette année de reconversion. Donc ce plaisir, c'est moins pénible, très concrètement. On a l'occasion de crocher dedans beaucoup plus simplement, de passer plus d'heures à étudier, d'être plus motivé. L'autre grande différence que je vois, c'est le côté pratico-pratique qui était dans ma formation, c'est-à-dire qu'on avait l'occasion de naviguer toujours à modeler de la matière théorique et à de la mettre en application. Et cette mise en application, elle se faisait systématiquement avec d'autres personnes, avec d'autres co-apprenants. Et donc ça amène forcément, pas forcément des tensions, mais en tout cas une manière de s'organiser, de s'auto-organiser en groupe. Et donc je pense que ça, c'est aussi une grande différence, c'est que arrivant avec une maturité, une capacité à se dire les choses, à peut-être une capacité d'écoute, ou en tout cas à apprendre à écouter, j'ai préféré faire cette formation-là plus tardivement, parce que avec 10 ans dans les pattes d'un métier, on n'est pas du tout le même en fait, on travaille pas du tout de la même manière. Donc avec une facilité en fait de travailler en groupe, pour moi, qui était plus acquise peut-être que ce qu'elle n'a pu être dans mes jeunes années.
Le temps de la formation, c'est vraiment une période magique et hors du temps. Donc le fait de découvrir un nouveau monde, c'est vraiment une nouvelle aventure. Donc tout est nouveau, tout est beau, c'est un peu le monde des bisounours, on va dire, au sens où on apprend de nouveau, on a tout à refaire. Donc on se découvre vraiment une énergie folle, une envie vraiment de se dépasser. En ce qui me concerne, j'ai pas du tout eu le même ressenti lors de mes études initiales, où c'était plus voilà, je dois trouver un métier, je dois me former, je savais pas forcément ce qui me faisait vraiment vibrer. Enfin voilà, moi j'ai commencé mes études, j'avais 17 ans. Je savais pas forcément voilà qu'est-ce qui allait vraiment être mon moteur, ma motivation. Là vraiment, quand on a vraiment trouvé quelque chose qui nous motive, c'est beaucoup plus simple. Par contre voilà, on a une nouvelle montagne à gravir, on doit vraiment tout recommencer depuis zéro.
Quels sont les défis lors d'une reconversion ? Se reconvertir, c'est également surmonter ses doutes, se libérer des influences négatives et gérer son syndrome de l'imposteur. Étienne ?
L'état d'esprit, il n'est pas stable. La vie n'est pas dans le fleuve tranquille, et je pense que les reconversions ne sont pas le fleuve tranquille non plus. C'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas, il y a des rencontres très engageante, très agréable et qui te donne beaucoup d'envie d'aller plus loin. Et puis il y a des moments où tu as l'impression de rien comprendre parce que c'est un ultime acronyme de plus et que tu comprends pas techniquement comment les choses s'articulent et que tu as l'impression d'être nul. Moi j'ai aussi, ça c'est très idiosyncratique, mais j'ai toujours cette peur là de pas être à niveau. Donc ça dépend des jours, mais en tout cas, c'est pas stable. Il faut juste être bien entouré aussi. Moi, je pense que c'est un grand facteur de succès d'en parler, d'en parler à ses amis, d'en parler à son entourage, de se dire bah voilà, j'essaye de faire ça. Ça me tient à cœur de le faire. Comme ça, c'est un soutien aussi qui permet d'aller plus loin, je pense. Mais en tout cas, non, c'est pas du tout quelque chose qui est tout le temps très très gai. Des fois, on est plein de doutes, mais quand on a des petits succès, on est très content. Quand on est reçu à l'école, on est très content. Quand on arrive à graduer, on est très content. Quand on arrive à trouver une alternance, on est très content. Et quand on arrive à signer un premier CDI, et ben on est également très content.
Marion ?
L'entourage a joué un rôle assez primordial dans cette reconversion. Évidemment, on a le soutien moral de sa famille, ou parfois non d'ailleurs. Mais c'est très important de savoir s'entourer des bonnes personnes. Par bonne personne, j'entends des personnes qui vont être positives. Il va y avoir des personnes qui vont être pessimistes ou potentiellement peut-être jalouses, qui vont vous décourager, qui vont voir le côté négatif, qui peut-être elles-mêmes ont secrètement envie de changer de vie ou de se réorienter, mais qui n'osent pas, qui n'ont pas le courage ou qui ont peur et qui vont donc projeter des images plutôt négatives ou en tout cas de peur. Et du coup, il est peut-être préférable à ce moment-là de moins côtoyer ces personnes-là pendant cette période qui est une période de transition où c'est important de s'entourer de bonnes énergies, de bonnes vibes, des personnes qui vont nous stimuler, hein, qui vont avoir une énergie communicative et voilà, je pense que c'est très important dans ce type de période de reconversion.
Mélanie.
À la sortie de General Assembly, j'ai mon tampon et encore une fois quand je reviens, je doute parce que je me dis ah mais ouais, mais c'était pas un master d'un an, gros sentiment de d'usurpateur quand je rentre en France et que je me retrouve à devoir postuler à des jobs où en fait moi j'ai fait un bootcamp quoi, j'ai fait un truc accéléré. En fait, c'est la sensation du, vous savez, le permis en accéléré, c'est exactement ça. Je me suis dit ok, j'ai la flemme de passer mon permis avec toutes les étapes et tout, si je fais ça en une semaine, ça va aller mieux. Et en même temps, après, on se dit, mais attends, est-ce que je sais vraiment conduire là? Parce qu'en fait, j'ai fait qu'une semaine, là où tout le monde passe 2 mois. Enfin, voilà. Bah, c'était un peu ça. Donc, quand je suis rentrée en France, je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu cherches maintenant comme job? Et je me suis dit que être freelance, ça pouvait être sympa. Et là, je me rappelle d'avoir rencontré quelqu'un de Razorfish, une RH, qui me dit, t'as l'air d'avoir un parcours hyper intéressant, mais alors je vais te dire, le truc, c'est que t'as quand même pas mal d'expérience professionnelle, et du coup, t'as un peu l'étiquette de quelqu'un qui risque d'être chiant à manager. Parce que, grosso modo, tu seras quand même un peu débutant pour nous si on te compare à d'autres. Et en même temps, tu auras acquis suffisamment d'expérience professionnelle pour pas vouloir faire de la basse exécution. Or, en France, quand tu viens de sortir d'école et que tu es jeune designer, tu fais beaucoup de basse exécution. Et alors là, mon monde, il s'effondre, quoi. Parce que j'étais là reboostée à fond par mon expérience américaine, machin et tout, en me disant, allez, maintenant, quand même, j'ai un peu le tampon, tout ça. Peanuts, quoi. J'avais l'impression de revenir à la case départ.
La question de la légitimité touche également Étienne.
Le plus grand frein, je pense, auquel j'ai dû faire face, c'est la question de la légitimité, évidemment. On connaît tous le syndrome de l'imposteur. Moi, j'en suis un vaillant défenseur, même maintenant. Je me bats quotidiennement là-dessus. Et donc, c'est d'autant plus vrai lorsque on rentre avec l'âge canonique de 35-36 ans dans une nouvelle formation, c'est est-ce que je vais être capable d'être pertinent après une formation moyennement courte d'une année en fait. Donc cette question-là, elle est assez glaçante au début, surtout quand on n'a pas fait le basculement. Et puis après, c'est un peu comme le vélo, hein, c'est-à-dire que chaque apprentissage rajoute une pierre à l'édifice de cette forme de réassurance qu'on doit avoir. Et puis moi, ce qui m'a beaucoup aidé, encore une fois, c'est mon alternance, dans lequel les sujets ont été traités peu à peu en toute indépendance, dans lequel ont été traités en toute autonomie. Et ça a amené une forme de réassurance assez vite, c'est-à-dire je suis capable de délivrer, on me dit que ce que je délivre c'est au niveau des attendus et c'est au niveau de ce qu'on attend au sein de l'équipe de design. Donc ça a été des choses qui m'ont peu à peu rassuré. Mais il est certain que avant même de faire le basculement, avant même d'avoir les concours, la première question c'est est-ce que je vais être capable d'avoir les concours. Une fois qu'on a les concours, c'est est-ce que je vais être capable de trouver une alternance qui soit la bonne. Une fois qu'on a tout ça, on commence l'année scolaire et on se dit est-ce que je vais être capable de graduer, d'avoir mon diplôme, et est-ce que je vais être capable d'être gardé au sein de la boîte. Est-ce que je vais être légitime? Comment est-ce que je serai légitime un jour? Je pense qu'on ne l'est jamais tout à fait, parce qu'on est toujours très admiratif de gens qui sont bien plus forts que nous, qui ont une capacité de communiquer bien plus folle. J'ai vraiment beaucoup de noms qui me viennent à l'esprit. Mais bon, l'idée, c'est de se dire qu'on n'est pas un imposteur et qu'il faut travailler, en fait, même maintenant, pour continuer à monter en compétence, en fait, tout simplement.
Chapitre 4, le retour à l'emploi et la vie d'après. Forts de leurs nouvelles connaissances et de leurs nouveaux diplômes, nos trois témoins reprennent leur vie professionnelle.
Je suis revenue donc concrètement à mon ancien poste, donc pas grand-chose de différent, à part que ce que j'ai fait, c'est qu'à l'époque, j'avais un management qui était assez ouvert et qui a su saisir l'opportunité d'utiliser mes nouvelles compétences, donc un moment où il y a pas mal de coupes budget, ça peut aider, on va dire. Donc l'idée, c'était d'aménager mon temps de travail pour que j'ai, on va dire, à peu près 50% de temps pour réaliser tout ce qui était graphisme, studio. J'ai touché aussi un petit peu de vidéo. Et 50% sur des projets plus classiques. Et certains de mes projets ont été répartis au sein de l'équipe, ont été dispatchés pour que je puisse me concentrer là-dessus. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que à partir du moment où j'ai réintégré l'entreprise, on a quasiment plus fait appel aux prestataires externes. Donc c'était moi qui prenais, on va dire, mes briefs que je donnais avant à des freelances ou à des agences. Et donc du coup, c'était une partie où j'étais quelque part pas autodidacte parce que j'avais eu ma formation et que j'avais toute l'expérience de 6 mois derrière moi, mais je n'avais pas de head of design ou de personne qui pouvait en tout cas me coacher ou m'orienter. Donc c'était à la fois très challengeant et à la fois très satisfaisant parce que du coup voilà, on apprend énormément, on apprend à se dépasser, on apprend à se dépatouiller, à trouver des solutions. Donc voilà, un peu une nouvelle aventure qui commençait mais qui était très concrète. Donc, ce qui est pas mal, c'est que j'ai l'impression que les équipes en interne ont trouvé ça, enfin cette transition assez fluide finalement. Et ça a été aussi pour moi, enfin je l'ai plutôt bien vécu au sens où voilà, le dispatch entre les différentes missions était assez fluide et il n'y a pas eu trop de barrières à ce changement.
Pour Étienne, le retour à l'emploi a aussi été un vrai changement d'environnement de travail.
Mon retour à l'emploi, ça a été, j'ai été favorablement surpris parce que après 10 ans de travail au sein de l'ingénierie culturelle, j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup d'écueils dans le monde du travail, que ce soit du micromanagement, que ce soit pas forcément assez de moyens pour faire les choses, enfin en tout cas pas mal de choses. Et là, il y avait tout l'inverse. Je suis arrivé dans une équipe dans laquelle le manager était assez clair sur les objectifs, dans lequel on me laissait pas mal de liberté pour réaliser ces objectifs un peu comme je le souhaitais. On me proposait de l'aide, en tout cas on me donnait la possibilité d'aller discuter avec un designer au sein de l'agence pour pouvoir me dépatouiller si c'était pas le cas, si j'avais des difficultés. Donc ça a été assez idyllique. Malgré le fait que je rentrais dans le monde de l'entreprise, et ça c'était relativement nouveau pour moi également. Moi, j'ai eu toujours l'occasion de travailler à la fois dans des contextes associatifs en France, fondations au Canada, et puis en fonctionnaire territorial quand je suis revenu. Et donc là c'était pour la première fois finalement que je travaillais pour une entreprise, donc ça c'était relativement nouveau. J'avais des craintes également là-dessus, et finalement ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'OBS est assez vertueuse, hein. Donc c'est une ESN, entreprise de services numériques, qui est relativement vertueuse aussi en termes de relations, d'équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. Donc peut-être des appréhensions avant même de commencer, mais dès les premiers jours, finalement, c'est pas quelque chose qui a perduré.
Mélanie a effectué son retour à l'emploi en tant que freelance.
Finalement, je reçois un coup de fil de Fjord. Fjord avait besoin d'un freelance pour travailler sur un projet bancaire long terme. Et là, j'ai rejoint cette équipe et on m'a envoyé chez le client, à la banque postale. J'avais mis les pieds chez Fjord, quoi. Et chez Fjord, pour moi, c'était le Graal. Il y avait une espèce de Graal absolu du design, quoi. Et tous les gens avec qui je travaillais, c'était des designers qui avaient fait du design industriel, qui sortaient tous de l'ENSI, qui étaient capables de faire du digital, du physique, du tout. Et là, moi, je suis arrivée avec mon petit truc de reconversion de UX. Et donc, après, j'y suis allée, hein, mais ouais, j'avais la trouille et puis j'avais quand même pas mal le syndrome de l'imposteur. Et en même temps, toujours ce truc à double vitesse, c'est-à-dire que paradoxalement, sur plein de trucs, j'avais plus d'expérience professionnelle, plus d'expérience de management, plus d'expérience de chefferie de projet. Et ça, c'est hyper important parce que tous les skills que j'avais acquis, en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient transférables. Par exemple, j'aurais jamais pensé qu'avoir de solides bases sur le droit d'auteur me resservirait en tant que UX. Mais en fait, ça m'a servi plein de fois. On s'en rend compte qu'après. Mais au final, les skills, ils sont transférables.
L'évolution du parcours de Marion va l'amener vers le product design.
Donc, j'ai quitté Amadeus 2 ans après mon retour de formation. Concrètement, le temps déjà de commencer à monter en compétences, de prendre confiance en moi, d'être plus autonome, plus efficace, et puis le temps de commencer à me faire un portfolio, à travailler aussi sur des projets en freelance pour pouvoir changer un petit peu, ne pas avoir qu'un seul domaine de prédilection, et le temps également donc de d'avancer sur mon réseau, parce que ce qui est important, c'est qu'on change de domaine, on doit complètement reconstituer son réseau, on commence vraiment en bas de l'échelle. J'ai eu une opportunité en fait par mon réseau, en fait par les personnes avec qui j'avais travaillé dans mon agence lors de mon stage, pour rentrer donc à la Société Générale. Et donc la Société Générale donc avait décidé de bosser avec moi. Et vu qu'ils prenaient des freelances ou des prestataires, ils m'ont fait donc contractualiser avec avec mon entreprise. Donc à l'époque c'était Team Inside qui après s'est associé avec Monsieur Guise. Et donc je suis rentrée comme ça chez Team Inside. Donc j'ai commencé par des missions de UI designer. J'ai passé 3 ans dans la Société Générale, j'ai fait 3 missions différentes. Je suis assez rapidement passée sur une autre mission où là c'était directement en product design. Donc j'avais eu l'occasion vraiment de travailler en binôme avec un UX designer dans ma première mission. Et donc sur la mission d'après, c'était vraiment product design, donc à la fois UI et UX. Et de monter en compétence sur le poste, essentiellement en apprenant avec mes collègues, de par mes collègues, et à me former avec en interne. Donc l'évolution a été assez naturelle en fait. Quand je suis arrivée donc au début de ma première mission pour la Société Générale, je suis on va dire arrivée par l'interface, donc vraiment le côté graphisme, communication visuelle et plus que ça bien sûr, mais en tout cas ça a été la porte d'entrée on va dire. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à découvrir vraiment ce que c'était l'UX en travaillant notamment en binôme avec des UX designers. Et finalement la glissade vers le métier de product designer s'est fait assez rapidement. Sûrement parce que j'avais aussi montré que je pouvais m'adapter assez rapidement et que du coup voilà j'avais relevé des premiers défis et que je pouvais en relever encore d'autres, et sachant que il y avait quand même beaucoup de parallèles avec mon expérience précédente. Donc voilà, ça s'est fait assez naturellement et j'ai pas trop eu le temps de réfléchir et de voir ça venir.
En conclusion, quel conseil pour une personne qui envisage une reconversion?
En termes de conseils pour entamer une reconversion, je pense que c'est important de chercher et de provoquer les bonnes rencontres qui peuvent vous aider à vous développer, à savoir là où vous voulez aller et connaître vraiment mieux comprendre comment évoluer. Moi, je reste convaincue que c'est une question d'énergie et de volonté. Et c'est toujours plus simple de se frayer un chemin quand on est motivé et qu'on sait ce qu'on veut. J'ai eu l'opportunité de au cours de cette reconversion, de croiser les chemins de plusieurs personnes, et chaque personne en fait a eu une influence sur mon parcours. Je pense que c'est important aussi de s'écouter, d'écouter sa petite voix intérieure, de pas trop écouter les autres au sens ceux qui n'ont pas cette énergie du changement et qui peuvent apporter plus de freins. C'est important de se faire confiance sur sa capacité à apprendre, à changer, à s'améliorer. Voilà, c'est un peu les points qui sont importants. Et moi, en tout cas, j'ai vécu cette reconversion comme une aventure. Maintenant, il y a toujours un petit peu ce syndrome de l'imposteur où on va se dire, il y a des personnes qui font ce métier depuis 20 ans, moi j'arrive, qu'est-ce que je vais apporter par rapport à eux? Et je pense en effet que finalement, avoir un background un petit peu différent, ça va justement apporter d'autres éléments, d'autres pistes. Au-delà des compétences techniques et métiers, je pense que ce qui est très important dans le cadre d'une reconversion, c'est vraiment les soft skills. Je pense que c'est vraiment elles qui peuvent faire aussi la différence et nous permettre de nous adapter pour réussir vraiment cette phase de transition. Donc on peut parler aussi bien d'empathie, de curiosité, de motivation, de communication, d'intelligence émotionnelle, de gestion des priorités, tout ça, voilà, c'est quelque part des compétences qu'on développe et qui sont très utiles à cette quand on envisage une reconversion. Et c'est important de savoir aussi qu'il faut vraiment fournir des efforts en continu pendant plusieurs années, c'est pas un seul moment, et qu'il faut vraiment s'adapter. Et je pense que ça, c'est un peu la pierre angulaire d'une personne qui veut se reconvertir, c'est vraiment de travailler ces aspects-là. Ces parcours hybrides qui sont de plus en plus qu'on découvre de plus en plus, ça permet d'apporter une certaine richesse. On parle aujourd'hui des tout ce qui est les slashers, de personnes qui ont différentes activités. Je pense que ça apporte quelque chose en plus. Et je suis aussi également convaincue qu'aujourd'hui c'est possible d'avoir plusieurs vies. Enfin, moi personnellement, je ne vois pas faire pendant 40 ans la même chose. Nos vies professionnelles sont beaucoup moins linéaires que celles de nos parents, par exemple. Et la formation continue régulière, elle est vraiment indispensable. Aujourd'hui, c'est vraiment pour rester à la page, et encore plus, bien sûr, dans le domaine du design. C'est vraiment important de se former en continu. Et je pense que notamment les métiers et les dénominations évoluent constamment. Enfin, encore une fois, moi, il y a il y a 5 ans, j'avais jamais entendu parler du métier de product designer. Bon, après, j'étais pas dans le métier 100% design, mais voilà. Il faut le voir comme une opportunité et une occasion de pouvoir vraiment profiter de sa vie professionnelle et de pouvoir vivre différentes vies professionnelles qui sont une part importante du quotidien. Et voilà, c'est important de pouvoir se renouveler.
Je pense que le conseil que je donnerais à quelqu'un qui essaye de se reconvertir dans les métiers du design, ce serait de pas se perdre dans trop de compréhension de la théorie. Il faut faire. Il faut se trouver un stage. Il faut se trouver un bon mentor. Parce que le mentor, c'est clé. Et moi, j'ai une chance de dingue avec Pauline Thomas. La transférabilité des skills. Qu'en fait, tu sais jamais ce qui va te resservir comme compétence que t'as acquise par le passé. Et enfin, que être designer, c'est beaucoup de soft skills. Et ça, les soft skills, toutes les expériences précédentes, elles servent énormément.
Le premier conseil que je pourrais donner à une personne en reconversion, c'est d'en parler autour de soi. C'est de se dire qu'on n'est pas seul dans sa reconversion, qu'il y a à la fois des personnes qui font le métier qu'on souhaiterait faire, à la fois des personnes qui ont fait des reconversions, à la fois des personnes qui peuvent être des soutiens dans cette reconversion-là. Et en tout cas, moi, c'est un réflexe que j'ai eu au cours de ma reconversion, c'est d'en parler souvent à des personnes diverses et variées et de pouvoir obtenir le meilleur des conseils, le meilleur des connaissances que les personnes... Parce que finalement, ce qu'on traverse, des personnes l'ont traversé avant ou des personnes peuvent être des soutiens. Donc, cette nécessité de communiquer, de ne pas rester isolé dans sa reconversion, je pense que c'est excellent comme conseil. Enfin, en tout cas, c'est le premier conseil que je pourrais donner. Le deuxième, eh bien, c'est de s'intéresser. En fait, on a eu l'occasion d'en discuter tout à l'heure sur la grande... diversité des ressources disponibles gratuitement. C'est des ressources on peut prendre le temps de s'y intéresser, on peut bouquiner, on peut lire sur le net, on peut écouter des podcasts, il y a beaucoup de choses. Donc pour des reconversions dans le numérique particulièrement, il y a toujours possibilité de pouvoir amorcer quelque chose. Ça, ce serait le deuxième conseil que je pourrais donner.